comportement, la générosité d'un comportement, peut-être une beauté formidable, une attitude, une façon d'être, une façon de tout simplement de vivre. Tout cela, ce sont les beautés qui peuvent se manifester dans le monde. Mais tout cela vient de la source de la beauté, qui est cette beauté divine. Donc plus on se rapproche de ce sens divin, plus on en perçoit la beauté intrinsèque. Et évidemment, la beauté fait naître l'amour et le désir. Et tout cela sans aller chercher très loin, c'est juste en nous-mêmes. Et donc, il y a ce voyage vers la révélation du sens, vers l'approfondissement du sens, vers ce qui ne peut plus se dire, évidemment, autrement que d'âme à âme, d'état à état. Et les soufis ont souvent, pour rendre tout cela tangible, comme dans le cantique des cantiques précisément, utilisé une image de l'amour universel comme Roméo et Juliette, Tristan et Isolde et ainsi de suite, qui dans la littérature arabe et qu'on appelle Qais et Layla. Qais et Layla. Ou bien Majnoun et Layla. Majnoun, c'est celui qui est le fou de Layla, celui qui a perdu la raison par son amour pour Layla. Et cette histoire-là existe dans la tradition avant l'islam. Il y avait des tribus arabes qui cultivaient ce qu'on appelait l'amour udri, c'est-à-dire l'amour platonique. Et je crois que dans toutes les traditions, dans tous les récits d'amour universel, c'est quelque chose qui nous touche profondément et qui nous aime profondément parce qu'on sent d'une façon plus ou moins explicite ou plus ou moins perceptible, que ça touche à un mystère de l'être. Ça touche à quelque chose, à une clé, même de l'existence. Et donc, il y a là, à travers l'amour divin, à travers... il y a là quelque chose qui, lorsqu'on le porte jusqu'à sa signification la plus ultime, eh bien, rejoint le divin. L'humain rejoint le divin. Tout est notamment toujours lié. Il n'y a pas de séparation. Et donc, les soufis ont repris ce récit de Majnoun et de Layla sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes, comme Qais, et ça, ils ont pensé que les Arabes, avant l'avènement de l'islam, avant l'avènement du soufisme, avaient déjà cette perception mystique de l'amour. Et ils citent les poésies en disant, comme celle-ci, « Je vais de campement en campement. » Vous savez, dans le désert, les caravanes passent et ils ne laissent que des traces ensuite. C'est la trace des cendres du campement, des traces des pieux, des tentes, n'est-ce pas, de toutes ces petites murets un peu qu'on construit pour établir un peu le mobilier. Et Qais, il est à la recherche de Layla, et pour cela, il va sur les traces de sa caravane, de campement en campement. Et il dit, j'arrive dans le campement où il y a les vestiges de Layla. J'embrasse tel muret, tel autre mur, tel autre vestige. Ce n'est pas que l'amour des vestiges est embrasé mon cœur, mais l'amour de celle qui est passée par là. Et ils vont réinterpréter tout cela à la lueur même de l'existence. Les vestiges de Layla, ce sont les traces du monde. C'est tout ce qui se passe autour de nous. Layla, c'est le secret divin. Nous sommes là à la trace, à la recherche. Nous itinérons à la recherche de la trace de ce secret, qui est passé par là, qui a laissé quelques vestiges, les symboles, les récits, la poésie, tout un ensemble de petits signes qui sont semés ici et là et qui nous font nous rapprocher de ce secret qui est évidemment, comme on le sait fort bien, au plus profond de notre être. Un jour, on est venu voir Qaïs qui avait l'air, d'un seul coup, il n'avait plus l'air inquiet. Mais il dit, ça y est, tu n'aimes plus ta Layla? Tu as l'air tranquille. Il lui dit, alors il dit, son image est dans ma pupille, son amour est dans mon cœur, à qui crierai-je? Et donc, il y a là ce secret de l'amour divin, ce secret de la présence divine qui est au cœur de nos êtres. Et il y a là cette nostalgie de l'humain à rejoindre cette présence. Ce désir profond. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse alimenter ce désir. Et ce désir, il est dans la poésie soufie, il va être décrit comme le vin spirituel. Le vin spirituel. Alors, les musulmans qui en principe ne boivent pas de vin, ils ne parlent que de cela dans leur poésie. J'ai bu aux coupes de l'amour l'une après l'autre. Le vin ne s'est pas tari, ma soif n'a pas été étanchée. Bien notre Sophie, Bistami. Et c'est un vin qui, curieusement, c'est peut-être d'ailleurs la même chose pour le vin matériel, je ne sais pas, moi je ne suis pas un très grand pratiquant du vin matériel, mais qui, curieusement, augmente la soif. Plus on boit et plus on a soif. Plus on boit ce vin de l'amour et plus on a soif. Parce que le problème de toute spiritualité, c'est de n'avoir ni faim ni soif. Ça, c'est simplement le fait qu'on ne ressente pas cette flamme de l'amour, ce désir inextinguible. Qu'on devient dans une sorte de désabusement, d'indifférence. Où on pense peut-être à un certain moment, et on le voit parfois même chez nos jeunes, parfois, ils ont 16 ans ou 17 ans, ils disent, nous avons tout compris, il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus rien d'intéressant à découvrir. N'est-ce pas? Donc, en réalité, et les jeunes et les moins jeunes, il y a un moment où on perd cette capacité d'émerveillement, de curiosité, de découverte, cette soif du sens et de comprendre que ce qui paraît sans limite et qui paraît extraordinairement grand, c'est notre ignorance. Et que notre connaissance dans cet océan n'apparaît être qu'une sorte de gorgée d'eau prise par une rondelle sur la superficie de l'océan. Et que dans ce domaine-là, plus on avance et moins on comprend. Et moins on comprend et mieux ça vaut. Il y a une tradition du prophète qui dit « Rajoute-moi en toi-même perplexité sur perplexité. » Et beaucoup de mystiques dans beaucoup de traditions ont compris que par rapport à ce sens, qui est le sens de l'infini, de l'illimité, comment est-ce qu'on peut englober? Comprendre, c'est englober. Comment peut-on englober l'infini? Ou le limiter? Donc, ici en l'occurrence, contempler, c'est ne plus rien comprendre. C'est au-delà de la description, au-delà de la compréhension. C'est être ravi à soi-même par quelque chose qui est au-delà de tout langage possible. C'est pour cela qu'on trouve dans certaines traditions ce qu'on appelle, d'ailleurs dans toutes les discussions qu'on a échangées, on a retrouvé un peu cette idée-là. C'est ce qu'on appelle les traditions apophatiques, n'est-ce pas? Y compris dans la tradition chrétienne, comme tu le citais, mon cher Denis, par ton homonyme,
l'Aréopagite,
le pseudo, toi tu es le vrai. Le pseudo de l'Aréopagite, qui parlait du nuage d'inconnaissance. Le nuage d'inconnaissance. L'élévation, ce n'est pas englober. L'élévation, c'est comprendre quelque chose qui est au-delà de soi-même. La force d'une vague, c'est pas d'englober l'océan, c'est de comprendre qu'elle n'est qu'une émanation. Et à partir du moment où elle le comprend, elle devient l'océan lui-même. Et donc, c'est ce processus-là qui est le processus spirituel et qui est cette voie vers l'illimité, vers l'infini, comme dit dans notre poète soufi, d'une façon populaire, celui que j'aime, moi, n'a pas de limite, son amour habite ma poitrine. Et donc, évidemment, toute la poésie va être un jeu permanent entre le un et le multiple, entre la dualité et l'unité. Parce que tout cela, c'est quoi? C'est comme dit un autre poète, j'étais entre moi et moi-même, séparé de moi par moi-même. Et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être ma source et mon essence. Donc il y a là le fait de traverser l'illusion de la séparation.